Après 10 ans de guerre, la République démocratique du Congo panse aujourd'hui ses plaies. Des plaies qui sont loin d'être refermées. Parmi les crimes perpétrés, les viols envers les femmes et les enfants, viols devenus véritables armes de guerre. Selon l'ONU, 43 000 cas de violences sexuelles ont été perpétrés en RDC entre 2004 et 2006. Des violences à l'encontre des civils qui sont toujours d'actualité dans le nord et l'est du pays. Cachés dans la forêt tropicale, les miliciens locaux et les rebelles Hutu rwandais sont les responsables de ces crimes. Des crimes trop peu condamnés, dont les victimes gardent des traces indélébiles. La Caritas est là au secours de ces femmes. Rencontre avec le père Paul Kadundu, responsable de la Caritas de Bukavu à l'est de la RDC.
La Caritas aujourd'hui a parmi ses volets les plus importants la gestion de cette question de viol comme tactique de guerre. Nous pensons que c'est commandité quelque part parce que il s'agit vraiment de détruire complètement une communauté, de la raser, parce que quand on viole une femme devant ses enfants ou devant son mari, et puis après on la tue, là on ne comprend pas cette folie, cette cruauté, ce qui peut la motiver, quoi. C'est des chiffres effectivement très très importants, c'est en termes des milliers de femmes violées et donc qui ont du mal à se reconstruire, à reprendre la vie. Et donc le travail de la Caritas est très très concentré là-dessus.
Un travail d'abord de reconstruction pour ces femmes qui ont été violées.
Oui, ça signifie que dans un premier temps, il faut les mettre dans des endroits où elles peuvent être soignées. C'est important. Et donc il y a un hôpital qui s'est spécialisé dans cela avec le docteur Mukwege. Et dans la plupart de nos centres de santé aussi, c'est fait. L'hôpital dont je parle ici, c'est un hôpital protestant, mais c'est aussi pour la vie. Dans un deuxième temps, il faut un accompagnement psychosocial. Et là, nous avons des centres d'accompagnement, d'écoute psychosociale. Et troisièmement, c'est la constitution des dossiers juridiques. Et là, la commission justice et paix est très, très branchée dessus. Bon, nous espérons que dans un proche avenir, nous aurons le temps de faire entendre la justice.
Ce sont des femmes qui sont rejetées par la communauté ensuite.
Des fois, il y en a qui sont accompagnées par la suite. Mais dans les services que nous menons, justement, il faut également engager une activité de médiation avec leurs familles de manière un tout petit peu à minimiser l'impact en termes de rejet par les familles ou par les villages, car ça peut arriver.
Par les communautés paroissiales, comment réagissent également les communautés paroissiales ? Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens aussi, malheureusement, rejettent ces femmes ?
Non. Non, parce que bon, souvent c'est, vous voyez, c'est des malheurs partagés. Hein, il faut dire que c'est des familles proches. Ce n'est pas général, hein, c'est pas général le fait qu'elles soient rejetées, mais cela peut arriver. Mais c'est généralement, vous voyez, cette irruption est souvent faite sur un village déterminé, si bien qu'il n'y a pas qu'un seul qui est concerné, c'est pratiquement tout le village qui est concerné, puisqu'en même temps qu'ils tuent, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre sur leur passage, des bétails, des habits, de tout ce que possède une famille, quoi.
Voilà les moyens d'aider les femmes qui ont été violées. Maintenant, en termes de prévention, qu'est-ce que l'on peut faire dans votre pays pour éviter ce type de drame?
Nous, ce que nous demandons souvent, c'est d'abord nous aider justement à faire entendre notre voix au niveau de la communauté internationale, donc le plaidoyer, mais aussi, bon, parce que les plaies sont là, et ce que les hommes de bonne volonté peuvent trouver pour les habiller, pour les nourrir, là, souvent, c'est des familles qui n'ont plus rien. Pour prévenir les crimes, il faut que la paix revienne totalement et vraiment être assez ferme pour que la communauté internationale arrive à régler cette question de la sortie de brousse.
Parce qu'en interne, la police ou l'armée du Congo ne peut pas intervenir sur cette région.
Non, mais l'armée, elle est dépourvue des moyens pour le faire. Hein. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a la MONUC, une des missions des Nations Unies la plus importante au monde. Ça fait 17 000 hommes. Mais des fois, il arrive que cela se passe non loin des cantonnements, des camps de la MONUC.
Et la MONUC intervient ou pas pour ce type de crime?
Des fois, la MONUC se dit ne pas avoir tout ce qu'il faut en termes d'hommes pour intervenir, ou qu'elle dit ne pas maîtriser le terrain, parce que souvent, vraiment, un terrain avec des montagnes, avec la forêt, des fois, nous avons du mal à le comprendre et à l'accepter.
Donc, la première action de prévention, c'est d'abord le politique. Ensuite, est-ce que l'on peut également prévenir avec des actions directement envers les femmes?
Ce que nous avons fait comme Église, c'était de dire qu'il fallait avoir des personnes qui se sentent directement impliquées dans ce viol fait aux femmes. Et la première chose que nous avions demandé au gouvernement, c'était de choisir un officier du coin pour organiser les forces congolaises qui se trouvent sur le terrain. Ça a été fait. À partir du moment où on l'a fait, on a trouvé qu'il y avait de moins en moins de viols.
Est-ce qu'au sein des paroisses également, on s'intéresse à la prévention de ces crimes, de ces viols envers les femmes?
Mais oui, tout le temps, il faut refaire ses équipes, les réorganiser, les écouter, voir tout ce qu'il faut, les petits moyens qu'il faut mettre en place pour prévenir tout cela. Je me souviens d'ailleurs dans mon village qu'à un moment donné, quand il faisait ça, moi, j'ai la chance d'être sur un village avec un entourage C'est-à-dire que quand ils viennent d'une colline, à partir de l'autre coin, on peut les apercevoir.
Vous parlez des miliciens, là. Hein?
Ah oui. Alors, ceux qui se trouvent sur une colline aperçoivent ceux qui viennent sur une autre colline. Et puis, ils avaient des petits moyens, des tambours, des clochers. Et quand ils apercevaient des lumières la nuit, ils sonnaient pour avertir les autres. Et c'était pareil. Et donc, ils ont réussi pendant longtemps.
Il y avait un système de communication pour prévenir dès qu'il y avait des miliciens.
Oui. Et c'est un peu ce que font les curés dans les villages avoisinant la forêt.
Aujourd'hui, avec toutes ces actions, est-ce que vous diriez que ces crimes, ces viols envers les femmes sont en baisse depuis ces derniers mois?
Oui. Je crois que depuis environ 4 mois, depuis la conférence de Goma pratiquement, et même avant, il y a de moins en moins des incursions de ces miliciens.
Est-ce qu'on peut supprimer complètement ces crimes dans votre région?
Mais je crois, oui, que le mal ne peut pas dire le dernier mot. C'est une parole d'un homme d'espérance, quoi. On arrivera définitivement à mettre fin à ça et donc surtout à réorganiser ces communautés qui ont été touchées dans leur culture, dans leur organisation, dans leur dignité.
Témoignage du père Paul Kadundu, responsable de la Caritas de Bukavu à l'est de la RDC. Ces viols représentent aussi une véritable bombe à retardement face au système de santé déficient du pays. Le sida a le champ libre pour se propager. Plus d'un million de personnes sont séropositives en RDC. Anthony Torzek, Fidélité Nantes pour Radio Vatican.